solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Avis. Cette émission spéciale aujourd'hui de Fréquence Culte, la web radio de la MPT d'Air Germel. Nous commençons cette nouvelle saison avec nos fidèles chroniqueurs Étienne et Lilou, ainsi que de nouveau Alexandre et moi, Marina. Cette année, nous avons la chance de participer à un festival haut en couleur, Le Bout du Monde. Nous aurons l'occasion de découvrir de nouveaux genres et des cultures bien différentes, tout en baignant dans une ambiance de folie. Mais tout de même, pourquoi se rendre dans un festival ? Pourquoi ne pas rester chez soi à écouter ses musiques préférées ? Eh bien, c'est pour ça que nous nous sommes posé cette question : à quoi sert la musique live ? C'est alors Étienne qui va commencer en nous proposant les meilleurs ingrédients pour la recette d'un bon festival, puis nous enchaînerons sur l'interview de Chloé, attachée de presse du Festival du Bout du Monde. Lilou nous parlera de la petite histoire du Bout du Monde, et Alexandre poursuivra sur l'aspect environnemental des festivals. Nous finirons sur l'interview du directeur des Polarités, Christophe Dagorn, qui nous présentera la salle du Nouveau Max, une salle de spectacle à Quimper, et qui nous éclairera sur ce qu'est pour lui un festival et la musique en live. Et nous finirons cette émission musicale avec The Question, à quoi sert la musique live avec Lilou. Nous commençons tout de suite avec Étienne, qui nous présente la recette d'un bon festival.
Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition des recettes festivalières. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un bon festival. Pour organiser un bon festival, il vous faut évidemment des organisateurs. Un organisateur doit savoir tout gérer, du recrutement des bénévoles à la recherche des partenaires en passant par l'accueil des artistes. L'organisation d'un festival est un travail de longue haleine qui peut durer jusqu'à un an ou plus encore. Après avoir sollicité tous les organisateurs, le chef de projet doit étudier ce qu'il se fait autour, les festivals rivaux. On appelle ça pour les spécialistes une étude de marché. Afin de financer son projet, il doit ensuite rechercher des parrains, des partenaires reconnus régionalement, nationalement ou encore mondialement. On pense par exemple au groupe suédois de musique Spotify, le premier site de streaming musical au monde, qui sponsorise notamment le Festival du Bout du Monde cette année. La recherche d'artistes est primordiale dans un festival, car l'organisateur doit faire face à deux contraintes. D'un côté, il doit choisir des artistes à un prix abordable, pour un festival naissant ou un festival avec un budget faible. D'un autre côté, le festival doit attirer assez de spectateurs pour rembourser le prix de leur venue. De plus, il faut les accueillir dans de bonnes conditions pour que le bouche-à-oreille entre les artistes se passe et que des artistes soient enthousiastes de venir au festival. Il est nécessaire d'organiser une campagne de communication en créant des affiches et en allant promouvoir le festival dans les médias radio, télé et internet. La dernière étape est la recherche de bénévoles, de techniciens et d'agents de sécurité, les gens de l'ombre qui font de ce festival un succès. Une recette très bien appliquée par le Festival du Bout du Monde et Chloé qui travaille à Key West, une entreprise qui s'occupe de l'organisation de nombreux événements musicaux, comme le Festival du Bout du Monde, le BDM pour les intimes. Bonjour Chloé, merci d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes attachée de presse pour le Festival du Bout du Monde qui se déroulera le 4, 5, 6 août 2017 à Crozon.
C'est bien ça.
On a plein de questions à vous poser. Première question, donc, est-ce qu'il y aura des festivités particulières pour fêter les 18 ans de Boudu, la célèbre mascotte du Bout du Monde ?
Ah, notre petit Boudu. C'est pas encore prévu cette année. Pour le moment, on est sur une édition standard, entre guillemets. Donc, je pense qu'on réfléchira plutôt pour la 20e édition ou peut-être qu'on fera quelque chose de particulier, mais on a le temps de voir venir un peu quand même.
Et comment le festival a-t-il évolué depuis sa naissance ? Est-ce que le site du Bout du Monde va évoluer entre-temps ? Y aura-t-il des nouveautés, de nouveaux aménagements pour cette édition ?
Tous les ans, en fait, on essaie un peu d'aménager le site pour le confort des festivaliers. Donc là, ça fait quelques années déjà qu'on travaille notamment sur une zone de toilettes supplémentaires sur le site. Donc ça fait 2 ans, donc c'est des travaux de longue haleine. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Cette année, ça va encore un peu avancer. Donc voilà, on essaie toujours de faire un peu évoluer le site, c'est certain. Ensuite, entre la première édition et la 18e, je pense qu'on forcément ça a évolué, on a un peu agrandi les choses. Ensuite, ça fait maintenant plusieurs années, alors je sais pas depuis quelle année exactement, parce que je n'étais pas là déjà, qu'on est sur une jauge à 20 000 personnes, où on accueille 20 000 personnes donc, par jour. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas changer. C'est, voilà, on est un festival à taille humaine. C'est ce qui revient très, très souvent dans les remarques qu'on a des festivaliers et qui trouvent ça justement super. Donc voilà, le festival ne grossira pas en tout cas. Ensuite, des petites évolutions plutôt pour le confort des festivaliers. Ça, on essaie toujours d'en faire quelques-unes. Ouais.
Et pourquoi avoir choisi la ville de Crozon pour implanter un festival ?
Alors, bon, je ne suis pas la plus à même d'en parler, mais en fait, donc, Jacques Guérin, qui est le directeur et l'un des créateurs donc, du festival, est presqu'ilien. Et voilà, à la base, en fait, c'est un groupe de copains du coin qui se sont dit bah, « et pourquoi pas un festival à Crozon ?» Donc bah voilà, c'est parti d'ici. Bah oui, c'est pas parce qu'on est au bout du monde qu'on peut pas le faire. Et puis bah voilà, ça fait 18 ans que ça dure. Ça aurait pu être un énorme flop parce que la première année, il a fait un temps pas possible. Il a plu. Ça a failli être la première et la dernière édition. Et puis ben voilà, Jacques Guérin s'est battu pour qu'il y ait une deuxième édition. Et il a bien fait parce qu'on en est à cette 18e édition et que on accueille toujours autant de monde avec autant de plaisir et de sourire.
Et comment on fait concrètement pour accueillir 60 000 personnes tous les ans ?
C'est beaucoup de logistique. Ce que tu disais un peu tout à l'heure, un festival, c'est pas juste voilà, un instant T où d'un seul coup, il y a plein de choses qui se passent. C'est une année de boulot en amont. C'est une logistique assez dingue où il faut avoir beaucoup de monde, une équipe d'enfer qui soit là en amont pour penser à toutes ces petites choses à réaliser, donc que ça soit du barriérage, réaliser la place aussi pour les campings, pour les parkings, tout mettre en place en fait pour l'instant T. Donc accueillir 60 000 personnes, c'est une sacrée organisation. Mais voilà, c'est du coup, au bout du monde, c'est une équipe, on doit être presque 150-200 personnes à vraiment bosser dessus. Donc bon, pas à l'année. Hein. Au niveau de la structure, Key West, on est 5 personnes. Mais tout autour de nous, on a vraiment une équipe d'enfer et un grand, grand merci à eux qui est là à nos côtés et qui gère tout ça. Quoi.
Le bout du monde est un festival éclectique. Et cette année, il y aura combien de pays présents ?
Alors, on est à une vingtaine de pays représentés avec les artistes. C'est toujours un peu compliqué à compter parce qu'on a certains artistes qui vont venir de un ou deux pays différents où il va y avoir des racines ou bon, des choses comme ça. Donc voilà, on hésitait entre 19, 21, ça dépend comment on les compte. Donc on va dire une vingtaine cette année, c'est déjà pas mal. Sachant que voilà, on a des gens qui viennent d'Australie, on a des Japonais cette année. L'Asie est assez peu représentée au bout du monde en règle générale, donc... Voilà, cette année, on a des Japonais. On aura des gens qui nous viennent d'Amérique du Sud avec la Colombie, le Pérou. On a des États-Unis. L'Europe est aussi pas mal représentée. On a donc, la France, forcément. On a quand même quelques groupes français. On a l'Espagne, l'Allemagne. On est un peu partout, aussi en Afrique. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le décompte des 20 pays en question, ça vient d'un peu partout quand même.
Est-ce que le festival du bout du monde reste toujours dans sa thématique, les musiques du monde, justement ?
Les musiques du monde, ça veut tout et rien dire, en fait. Les musiques du monde, c'est un terme assez global. Et en fait, au bout du monde, ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir des choses. Cette année, je ne sais pas si on peut dire que du rap, c'est catégorisé dans les musiques du monde. Mais pour nous, oui, ça a sa place. Donc, par exemple, cette année, on va voir Kenny Arcana, qui est une rappeuse française hyper célèbre. C'est pas parce que... Même si le rap n'est pas forcément catégorisé musique du monde, pour nous, c'est quand même important de la présenter. Parce que voilà, ce qu'on tient à faire, en fait, c'est... Un melting pot de tout ce qui peut se faire un peu partout dans le monde et de présenter ça à notre public. Donc, plus que musique du monde, je pense que, comme tu le disais, le bout du monde, c'est un festival éclectique où on va avoir de tout, on va avoir des gens qu'on connaît, des découvertes en veux-tu, en voilà. C'est surtout ça, je pense, pour le grand public. Quand il arrive, généralement, il va connaître 4, 5, 6 noms max et puis le reste, c'est de la découverte, quoi.
Donc il y a de tout, et comment vous faites pour trouver les groupes ? Est-ce que vous allez en Gambie par exemple pour découvrir
Ah j'aimerais bien Non, on travaille avec pas mal de boîtes de booking. Donc, les boîtes de booking, en fait, c'est des personnes qui vont avoir un catalogue avec plusieurs artistes et qui vont donc nous proposer des artistes. Donc, nous, voilà, on va écouter. Si ça nous intéresse, on va travailler sur le projet. Mais c'est aussi du bouche à oreille. Moi, c'est arrivé il y a 2 ans que mon frère me dise « Ah, écoute ce groupe, c'est génial. J'écoute. » Je fais « Ah ouais, c'est vrai que c'est canon. » On fait écouter au reste de l'équipe et si ça plaît, bah, on y va. Donc voilà, ça peut être des choses que nous, on entend, des choses qu'on voit en festival aussi. Là, cette année, on a 3 groupes qu'on a pu voir au Transmusical qui seront là. Donc il y a Super Parquet, BCUC et j'oublie qui est le troisième, Moiteux. Et donc bah, voilà, ça c'est des groupes qu'on a pu voir aussi en festival. Et une fois qu'on les a vus et qu'on s'est dit « Ah non, mais ça, il nous le faut au bout du, bah, on fonce quoi ».
Ok, et donc question pas facile maintenant, ton coup de cœur pour l'édition de cette année?
Oh non, mais ça c'est pas sympa. Est-ce que j'ai le droit à 3 coups de cœur, 1 par jour?
Ouais.
Bon, c'est sympa. Alors, le vendredi, 2 coups de cœur par jour? Non, j'hésite. Bah justement, ces 2 groupes que j'ai vus au Transmusical, il y a Moiteux et Super Parquet, qui sont dans 2 genres mais complètement différents, mais qui excellent l'un et l'autre. Moiteux, c'est une fanfare techno. Ils font de la techno avec les instruments d'une fanfare, c'est complètement dingue. Et Super Parquet, on est sur une sorte de... Ils appellent ça de la musique psychédélique d'Auvergne. C'est assez spé, c'est génialissime, je vous conseille. Coup de cœur du samedi, Xixa. Qui vient des USA, de Tucson. C'est des gens qui ont travaillé notamment avec Calexico, si ça vous parle, et c'est génial. Et pour le dimanche... j'hésite, je me tâte. Bombino, qui vient du Niger, un guitariste, un virtuose, quoi, et qui a une histoire assez épatante en plus. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce monsieur, et... du coup, je vais pas me lancer parce que sinon, on a un portateur.
Et du coup, Chloé, est-ce que la programmation de cette année peut être considérée comme engagée? Et plus largement, est-ce que le festival du bout du monde est un festival engagé?
On essaie de ne pas forcément être... Alors comment dire? On est engagé dans le sens où voilà, on fait attention à ce qu'on fait, à... Enfin, voilà, on a des engagements, je pense notamment à tout ce qui est développement durable. On fait attention à ce qu'on fait. Ensuite, on a aussi des artistes qu'on programme. Je pense bah, justement à Bombino, dont je viens de parler, qui est quelqu'un qui a lutté pour pouvoir faire de la musique dans son pays, au Niger, parce que c'est pas quelque chose qui est permis facilement là-bas. Nous, faire jouer des artistes comme ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a souvent des artistes qui ont un message fort et très engagé, justement. Là, cette année, il y en a encore plusieurs. Il y a bah, Kenny Arcana qui envoie aussi, en Paranoia, qui est espagnol, qui est une personne engagée, qui a des titres très forts. Donc oui, dans un sens, on peut dire qu'on est un festival engagé, mais en étant essayant quand même de ne pas trop l'être parce que voilà, on n'a pas envie d'être appelé tel quel, en fait. On ne veut pas qu'on se dise le bout du monde, oui, c'est un festival, si tu vas là-bas, c'est que machin. Non, ce n'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus être tous ensemble, faire la fête et découvrir des choses, quoi.
D'accord. Et du coup, petite question, en quoi ça consiste réellement ton métier d'attaché de presse?
Alors en fait, pendant le festival, vraiment quand on est sur site, donc on a une cinquantaine de journalistes, et ça fait une grosse marge de différence, mais j'ai plus du tout le chiffre en tête. Et en fait, donc c'est accueillir tout ce petit monde et se coordonner pour que tout le monde puisse avoir les interviews qu'il souhaite avoir avec tels artistes. Il y a beaucoup de directs aussi, donc il faut que tout soit bien mis en place pour que tout le monde ait le meilleur accès possible à ces informations-là, à ces interviews-là. Donc voilà, ça a l'air de pas grand chose dit comme ça, mais c'est un joli petit montage. On a une petite équipe en plus à l'espace presse où on a 4-5 bénévoles qui sont à fond pendant tout le festival. Et puis en amont, donc moi je suis sur la communication un peu plus globale aussi, où on est à 2 avec Guillaume Rocabois, Et donc bah, là, la communication en amont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la création des affiches, mettre le site internet à jour, gérer tous les réseaux sociaux. Et puis, bah, c'est ça, le contact aussi en amont avec la presse, s'assurer que tout le monde ait eu l'information. Et voilà, tout ce qui touche à la communication d'une manière ou d'une autre.
D'accord, merci. Et maintenant, une question un petit peu plus précise. Comment est né le projet de Gangbae Brass Band, le projet de fusion du Bagdad de Plomodien et le groupe Gangbae Brass Band qui vient du Bénin?
C'est ça. Alors, le Gangbae Brass Band, donc du Bénin, était au bout du monde il y a deux ou trois ans. Ils étaient là, en fait, sur... en fait, on fait des animations de la presqu'île. Donc, on a deux fanfares par an qui viennent animer les presqu'îles. Et donc, ils étaient là dans ce cadre-là. Et enfin voilà, ils ont joué et en fait aux alentours d'une rue, ils ont entendu un bagad. Et en fait donc l'un des membres du Gangbae Brass Band a un peu tiqué en disant mais c'est étonnant ces sons, ça me fait penser à quelque chose de chez moi, mais pourtant c'est complètement différent. Et donc en fait il en a parlé avec Jacques Guérin, le directeur du festival. Et en fait, voilà, ils en ont rediscuté. Ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose de ça? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une rencontre? Et en fait, voilà, de cette idée toute simple du « waouh, c'est marrant, ces sons, ces sonorités qui parlent à quelqu'un », voilà, on est parti sur une vraie création. Et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'on n'est pas vraiment... Enfin, on n'est pas sur un échange du « voilà, je vais jouer ton morceau, tu vas jouer le mien ». C'est une véritable création ensemble. Les deux groupes travaillent en amont. Ils vont se rencontrer pendant 4 jours lors d'une résidence fin mai. Et voilà, c'est un vrai set qu'ils vont créer ensemble, réaliser ensemble. Et ils vont tourner d'ailleurs sur plusieurs festivals pendant l'été. Donc on est assez contents. C'est une des premières fois qu'on a une vraie création sous cette forme-là. Et on a hâte de voir ce que ça va donner, mais moi, ça devrait envoyer.
D'accord. Et du coup, maintenant, une petite question qu'on se posait tous. Qui est donc qui est l'artiste à confirmer? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit indice?
Ça ne sera pas Manu Chao. Oh. Voilà. Non, c'est... Donc je précise que ça ne sera pas un artiste surprise comme on a pu le faire l'année dernière. C'est un artiste qu'on annoncera d'ici quelques semaines. Voilà, en fait, on ne l'a pas annoncé avec les autres parce que ce n'était pas calé. On hésitait encore entre quelques groupes. Donc on avance tranquillement, mais ça ne sera pas une surprise complètement dingue. Vous en saurez plus d'ici quelques semaines.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Chloé, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et donc, nous allons donc tout de suite enchaîner avec un morceau du groupe Hétéroclite Chinese Man qui sera présent au Festival du Bout du Monde. Écoutons maintenant l'un de leurs titres le plus connu, I've Got That Tune.
Tune that we always play for the ladies.
Vous êtes toujours sur Radio Évasion de Fréquence Culte. On écoute tout de suite Lilou qui nous présente la petite histoire du bout du monde.
Bonjour à tous, c'est la petite histoire du bout du monde. Un petit retour sur l'historique de ce festival qui commence à prendre de l'ampleur. Alors aujourd'hui, rétrospective du commencement de la première édition. C'est grâce au soutien d'associations locales que naît le festival en août 2000. Fondé désormais géré par Jacques Guérin, il durait à l'époque 2 jours et voyait se produire une petite vingtaine d'artistes venus de France, de Cuba ou encore du continent africain, le tout sur 2 scènes. Bien qu'étant la première, cette édition a réuni 17 000 festivaliers et s'est imposée sur le site de la prairie de Landaouedec, à Crozon, toujours à 300 mètres de l'océan et toujours le site actuel du festival. Bon, aujourd'hui, le bout du monde a pris de l'ampleur et a perfectionné tous ses aspects. Pour ce qui est de l'impact environnemental, on sait tous qu'un festival n'est jamais complètement écolo. Seulement là, le bout du monde s'est pris en main. Depuis 2007, des gobelets réutilisables sont en circulation, comme des cendriers de poche, des toilettes sèches, des restaurateurs bio, et même une équipe active pour le tri sélectif. Pour le camping, c'est pareil. Désormais, les festivaliers peuvent planter leurs tentes sur plus de 7 hectares de camping, et gratuit en plus. Enfin, le site lui-même a beaucoup évolué. C'est en 2004 qu'une troisième scène apparaît, suivie d'un espace dédié aux enfants, où ceux-ci pourront profiter d'activités, toujours encadrées par des professionnels bien sûr. Chaque année, de nouveaux restos et bars font leur apparition, et toujours accompagné de stands de partenaires et de prévention, tels que la mise à disposition d'alcool test, bouchons d'oreilles et premiers soins, pour garantir la sécurité des festivaliers. Désormais, le bout du monde accueille 20 000 festivaliers par jour, et nous n'en attendons pas moins cette année. C'est ce que nous verrons les 4, 5 et 6 août prochains. Nous nous y retrouverons donc. Merci à tous et à bientôt.
Eh bah tiens, justement, en parlant d'environnement, Alex approfondit tout de suite la question environnementale des festivals. Alexandre, nous t'écoutons.
Le bout du monde est réputé comme LE repère des babos et des écolos. Le cadre bucolique, champêtre et idyllique, les fameuses saucisses de Molène aux algues, contribuent grandement à cette étiquette environnementaliste. Blague à part, le festival semble prendre à cœur la gestion environnementale de l'événement. En effet, le festival se déroule en plein parc naturel régional d'Armorique, ce qui explique cette attention particulière à la sauvegarde de cet espace naturel. Par ailleurs, tous les aliments vendus dans les restaurants du site sont issus de l'agriculture biologique. Le site met aussi à disposition des gobelets, réutilisables à l'infini pour consommer diverses boissons, des cendriers disponibles pour la modique somme de 1 euro. Plus ces accessoires seront utilisés, plus ils seront rentables. Les derniers jours, le camping met en place un tri sélectif des déchets et les sacs bien triés seront récompensés par une crêpe. Plus de 120 bénévoles seront sur les lieux accompagnés de 16 000 sacs plastiques distribués par Leclerc, partenaire de l'événement. La présence des toilettes sèches tend à supplanter les toilettes chimiques, objectif 100% écolo. Enfin, papier recyclé, encre végétale, panneaux solaires rythmeront les 3 jours du festival. Toutes ces actions ont de quoi conforter la fameuse étiquette écolo du bout du monde.
Petit instant musical avec une jeune artiste soutenue par le Novo Max, Songe. Songe ne figure pas cette année sur l'affiche du bout du monde, mais qui sait, peut-être son succès naissant y apparaîtra dans quelques années. Maybe you're the reason my mind is tripping. Maybe you're the reason my heart is diving. Maybe you're the reason my head is spinning. Maybe you're the reason. Maybe you understand why I need you now. I need you now. I need you now. I need you now. I need you now.
At the crack of dawn, closer, come on, little closer. Why don't you come, little closer, at the crack of dawn. Maybe you're the reason my heart is diving. Maybe you're the reason my head is spinning. Maybe you're the reason. Maybe you understand why.
Et comme prévu, nous nous retrouverons avec Christophe Dagorn, directeur du Novo Max. Depuis quand nourrissez-vous cette idée de projet du Novo Max ?
Déjà, l'idée du Novo Max, oui, c'est une vieille idée, hein, puisqu'on n'a pas été les premiers à la porter, hein, puisque la situation Polarité n'a pas été la première structure à porter une idée de lieu sur Quimper. On avait fait un petit travail de recherche il y a quelques années de ça, où on s'était rendu compte que les premières revendications de lieu remontaient aux années 80, ici. Il y avait plusieurs associations qui avaient déjà... revendiqué un lieu de concert, principalement. Et donc, en fait, cette idée de lieu, en tout cas, elle est portée depuis 2003 par la situation Polarité. Et précédemment, c'était une idée qui a été aussi portée par la Maison pour tous d'Argarmel, hein, puisque le projet porté par Polarité est né, en fait, du secteur musique actuel d'Argarmel, qui, à l'époque, s'appelait le pôle musical de Quimper. Hein.
Qu'est-ce qui se passe concrètement ici, au Novo Max ?
Alors, le Novo Max est un lieu culturel, déjà, qui est propriété de la ville de Quimper. Hein. Nous ne sommes que les gestionnaires. La situation Polarité n'est que le gestionnaire du lieu. Donc c'est un lieu qui est dédié, on va dire, à la pratique et la diffusion musicale, principalement dans le secteur de musique actuelle amplifiée, donc le rock et ses dérivés, on va dire. Et au sein du Novomax, donc on dispose de 8 studios de répétition, un studio d'enregistrement, une salle de concert. C'est une association qui regroupe à l'heure actuelle à peu près 600 adhérents. On a plus de 180 groupes qui répètent ici. Et donc voilà, donc c'est un lieu qui est à la fois un lieu de pratique musicale, de diffusion, mais aussi d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a une fonction à la fois ressource et d'accompagnement des projets musicaux portés par les groupes.
Et comment se fait le repérage des artistes qui seront sur scène au Novomax ?
Ah, ça c'est un travail, je dirais qu'il n'y a pas qu'une façon de procéder, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on gère un lieu de concert et qu'on fait de la programmation, déjà la première des missions, c'est d'exercer une veille culturelle, tout simplement. Alors, elle peut se faire de plein de manières différentes. On est à la fois attentif, c'est la lecture de la presse spécialisée, c'est le fait d'aller voir d'autres concerts, d'aller voir notamment aussi des festivals qui sont spécialisés dans la découverte musicale, comme par exemple les Transmusicales ou le Printemps de Bourges, pour n'en citer que deux. Et donc voilà, donc c'est une veille, bien évidemment, via la presse spécialisée de tout ce qui peut sortir et tout ce que tous les groupes, tous les projets artistiques qui peuvent émerger au niveau à la fois national mais aussi international. Et puis en local ici, c'est aussi une veille un peu tous les instants. Alors je dirais que nous, c'est facile parce qu'on est un peu dans un épicentre, un des épicentres du département en matière de musique actuelle. Donc on a déjà beaucoup de groupes qui répètent ici, donc on fait déjà un travail de repérage au sein des salles de répétition, mais c'est aussi un travail de repérage qu'on fait en réseau, puisque à l'échelle du département ici, on a un réseau qui s'appelle À vous les studios, qui regroupe en fait tous les lieux de répétition du Finistère, hein. Je pense à la Carène sur Brest, au Renard Pince à Châteaulin, les locaux rock à Douarnenez, etc. Donc c'est un réseau de studios de répétition, et donc les régisseurs de studios de répétition font un travail de veille et de repérage aussi des groupes qui répètent au sein des différentes structures. Donc en fait, c'est une veille, on va dire une veille artistique et culturelle à tous les niveaux, hein. C'est à la fois une veille artistique via la presse spécialisée, c'est aussi des propositions que les tourneurs nous font, hein. On reçoit à peu près une centaine de propositions par jour de groupes qui sont en tournée. Donc voilà, donc c'est un savant mélange et il faut veiller aussi aux équilibres, hein, entre des têtes d'affiche, des groupes moins connus en fait, parce qu'on a principalement vocation à développer des groupes qui sont pas extrêmement connus. Donc voilà, donc il faut être extrêmement vigilant sur l'évolution du secteur musical.
Alors pour revenir au lieu, au bâtiment, pourquoi ce nom, le Novomax ?
Alors déjà, il faut partir du principe que le choix d'un nom pour un lieu est relativement compliqué à trouver. C'est-à-dire que nous, pendant un an, on a été en situation d'essayer de trouver un nom. Alors, ça a été du brainstorming un peu intense au sein de l'équipe et au sein de l'association. Voilà. Je vous avoue qu'au bout d'un an, il n'y avait pas franchement de proposition qui ressortait. Etc. Et en fait, on est parti sur. C'est un néologisme. On a créé en fait un mot. Il faut savoir qu'on est juste à proximité du théâtre Max Jacob, qui est le vieux théâtre municipal quimpérois, qui a plus de 100 ans. Et on l'appelle souvent le Max, en fait, hein, ou le Max Jacob, voire le Max, en fait. Et on trouvait ça assez cohérent. Alors, novo, ça veut dire nouveau en latin. Le Max, c'est pour le Max Jacob, en fait. Et on a réuni les deux termes, Novo Max, qui est le nouveau Max Jacob, en fait, le nouveau théâtre. Voilà comment ça a été choisi.
Et vous parliez de l'équipe du Novomax, donc qui est derrière le Novomax ?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, le Novomax, c'est une propriété, enfin, le bâtiment est propriété de la ville de Quimper, hein, c'est la collectivité locale qui a investi pour construire le bâtiment. Et ensuite, l'association, elle a été confiée en gestion à l'association Polarité, hein, donc qui est une vraie association, hein, à peu près 600 adhérents, un conseil d'administration, un bureau, donc pas mal de bénévolat autour de ce projet. Et après, il y a une équipe au sein de Polarité, il y a une équipe de 8 salariés, en fait, hein, qui, à la fois des régisseurs, des gens qui dirigent l'association aussi, etc., du personnel administratif, ce qu'il en faut toujours. Et donc, on est 8 à gérer le bâtiment au quotidien, mais c'est un bâtiment qui... Alors, ça peut paraître nombreux, hein, c'est vrai que parfois, les gens sont assez étonnés de savoir qu'on est 8 salariés ici. Mais c'est à rapprocher du fait que le Novomax est un bâtiment qui est ouvert 7 jours sur 7, de 10h du matin jusqu'à minuit le soir, dans son fonctionnement quotidien. Donc c'est des grandes amplitudes d'ouverture. Et je ne parle pas évidemment des concerts, des résidences artistiques qui s'y déroulent. Donc on est 8, mais on chôme pas.
Alors aujourd'hui, on est au centre-ville. Donc pourquoi vous avez choisi cet emplacement et pas en périphérie de Quimper ?
Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce que y a une, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une tendance lourde en fait à installer des lieux de musique actuelle qui sont réputés être des lieux bruyants entre guillemets en périphérie des villes. Et ce qui et en fait, c'est un pari. Alors on achète entre guillemets un peu la paix civile, hein, on place les équipements à l'extérieur des villes pensant que ça ne va pas générer de... Alors effectivement, ça génère peut-être moins de problèmes, que, notamment en matière d'émergence sonore et de désagréments, que lorsque les équipements sont implantés en centre-ville, mais avec la problématique de l'accessibilité, notamment pour les plus jeunes. Et on a pas mal de collègues en région, notamment, dont les collectivités ont fait le choix de placer les équipements en dehors de la ville et qui se rendent compte, au bout de 4-5 ans de fonctionnement, que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Alors, c'est vrai qu'à Quimper, en fait, on a eu, je pense, une chance assez incroyable. Et ça, je pense qu'il faut aussi rendre un peu hommage à l'élu qui a porté, en fait, le projet, qui était l'ancien adjoint à la culture de la ville de Quimper. Et on a eu, justement, pour nous, c'était une question très sensible, cette question d'emplacement. On voulait, justement, éviter de se retrouver en dehors de la ville, par rapport au problème d'accessibilité que je viens d'évoquer. Et on a eu la chance d'avoir finalement un élu assez courageux qui s'est même battu, hein, avec sa propre majorité pour faire avancer l'idée qu'un lieu de musique actuel à Quimper, qui était une ville quand même qui était très en retard par rapport à d'autres villes, mais voilà, il s'est battu parce qu'il trouvait qu'il y avait un intérêt évident à implanter un équipement en cœur de ville, ce qui permet notamment une accessibilité total, notamment on pense aux plus jeunes, hein, qui ne sont pas véhiculés et qui peuvent prendre le bus, qui peuvent même venir à pied pour ceux qui habitent au centre-ville. Donc, et j'avoue qu'avec le recul, on a à peu près un an et demi d'ouverture maintenant, et que c'est un des atouts et des points forts en fait de ce lieu, c'est de se retrouver effectivement en hypercentre.
Alors, est-ce que le public quimpérois se déplace au concert du Novo Max ?
Alors oui, heureusement, je dirais, parce qu'on a un peu défendu effectivement cette idée-là pour persuader la collectivité d'investir quand même des sommes qui sont assez importantes. On a nous toujours défendu qu'il y avait un public qui attendait en fait une salle de concert. Mais je dirais que on réfléchit plus largement que le territoire quimpérois, puisque déjà il faut savoir que 50% de nos adhérents sont des non-quimpérois. Donc on voit bien que le projet rayonne beaucoup plus largement que strictement voilà, à l'intérieur de Quimper intramuros. Mais donc voilà, nous on raisonne beaucoup plus à l'échelle du territoire ici. Nous, notre point de référence, c'est un peu le pays de Cornouailles. Vous savez, c'est le troisième plus grand pays breton, en fait. Hein. C'est 350 000 habitants, mine de rien. Quand on part, on va dire, d'Audierne, et si on va jusqu'à Quimperlé, on a 350 000 habitants à 20 minutes de Quimper, quoi. Donc c'est quand même un bassin de population assez important. Et nous, on raisonne beaucoup plus à l'échelle du territoire de la Cornouaille, parce qu'on s'est aperçu surtout que le public qui venait... Alors, on a bien évidemment des Quimpérois qui viennent, mais on s'est rendu compte de manière un peu empirique. Hein, ça ne se base pas sur une étude, d'ailleurs, qu'on est en train de réaliser, parce qu'on est en train de prendre les codes postaux des spectateurs à l'entrée de la salle pour pouvoir faire des statistiques, justement, sur la provenance des spectateurs. Mais de manière un peu empirique, en questionnant un peu les gens, on se rend compte qu'en définitive, ça vient de toute la Cornouaille, ça vient aussi du nord du département, ça vient aussi des autres départements bretons. Et on a eu même des cas extrêmes, alors sur des niches esthétiques, par exemple comme le métal, on a des gens qui sont capables de faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir voir un concert.
Et quel type de musique est privilégié au Novo Max ?
Alors, on est un lieu de musique actuelle, hein, donc les musiques actuelles, alors c'est vrai que c'est un terme un peu administratif, un peu bureaucratique, je dirais, hein, puisque c'est le ministère de la Culture qui a imposé finalement ce terme il y a une vingtaine d'années, lorsque le ministère de la Culture a commencé à intégrer les musiques populaires dans ses politiques publiques. Pendant très longtemps, on a appelé ces musiques-là le rock, tout simplement, hein, et toutes ses dérivées, hein, que ça soit le métal, que ça soit le soul, que ça soit les musiques électroniques, tout ça vient de la contre-culture, en tout cas, qu'a représenté le rock à une époque. Et c'est vrai que les musiques actuelles, donc voilà, c'est ce terme générique qui nous convient finalement assez peu, parce qu'il ne décrit pas très bien, en fait, tout justement, toutes ces sous-esthétiques, toutes ces familles musicales. Donc, mais voilà, on a fini par l'adopter. Et pour en revenir directement à ta question, en fait, on est donc vraiment, nous, s'inscrit dans notre projet. Hein, on est sur... On se donne en tout cas pour ambition de donner une image la plus fidèle possible de la diversité culturelle sur le champ des musiques actuelles. Donc on y programme bien évidemment du rock, on y programme du métal, on y programme du rap, des musiques électroniques, parfois des concerts de dub. Voilà. On essaye, dans notre projet, d'être sur une programmation la plus équilibrée possible et qui donne à voir, en fait, tout le spectre des musiques actuelles amplifiées. Et le grand Manitou sait à quel point il est vaste, ce spectre-là, parce qu'il y a énormément de genres, de sous-genres. Voilà.
Alors, du coup, Monsieur Dagorne, maintenant, on va passer sur une question un petit peu plus ouverte, qui est, selon vous, à quoi sert la musique live ?
Oula, ça, c'est une question, effectivement, qui... Pour le coup, pour être ouverte, elle est ouverte. Je ne sais pas si comparaison vaut raison, je ne sais pas si l'analogie sera particulièrement pertinente, mais je dirais que c'est un peu le. Je dirais qu'on a un phénomène un peu comparable entre ce que peut être, par exemple, le cinéma et le théâtre, en fait. Ça crée des émotions complètement différentes. Nous, dans notre secteur, effectivement, on a. Alors, il faut savoir quand même que les musiques actuelles, historiquement, sont nées avec l'électrification. Et avec l'industrie du disque, hein, puisque le rock s'est complètement développé, en fait, suit un développement, on va dire, tout à fait parallèle avec le développement des maisons de disques, mais aussi des radios, qui ont un rôle absolument essentiel dans la diffusion de ces esthétiques-là. Et je dirais que l'intérêt du concert, je dirais que c'est l'intérêt que vous pouvez trouver à voir une pièce de théâtre, par exemple. On est vraiment dans une forme de... voilà, on est dans l'instant, on est dans l'émotion pure, on est à la fois l'artiste se met en situation d'être sans filet puisqu'il joue une musique et il peut à tout moment potentiellement se planter aussi. Hein. Donc c'est tout l'intérêt effectivement de capter ces moments qui sont des moments uniques en fait. Hein. C'est vrai que la musique est un art très particulier, hein, puisque on a la plupart du temps, dans toutes les formes d'art, on a des traces. On a un art qui laisse des traces, c'est-à-dire la peinture laisse des traces, forcément, la sculpture aussi, la littérature aussi. Et la musique, en fait, est une pratique qui est extrêmement particulière, puisque à peine la note effectivement est née et perçue par le spectateur, qui immédiatement elle s'efface physiquement. Donc c'est un peu l'art de l'instant. Et je dirais que l'intérêt du live, c'est véritablement un intérêt de partager des émotions, d'être dans une communion ou au contraire pas dans une communion, parce qu'on a le droit aussi de ne pas aimer la musique à laquelle on assiste. Mais je dirais que moi, ce qui me paraît le plus important dans la dimension live de la musique, c'est ce côté partage, communion ou pas avec un artiste à un moment donné. Et avec toutes les prises de risque que ça présuppose. C'est tout à fait différent aussi comme démarche que d'écouter chez soi un CD ou un MP3, etc. Où là, on est seul face à l'œuvre.
Merci beaucoup, Christophe Dagorne. Et dans les studios de Radio Évasion de Fréquence Culte, une question nous trotte toujours dans la tête. Mais à quoi sert la musique live ? C'est donc Lilou qui va nous partager tout de suite son point de vue.
Alors, afin de rester dans le sujet de cette interview, j'ai essayé de prendre quelques renseignements auprès d'autres habitués de concerts, festivals, et plus afin de répondre simplement à quoi sert la musique live. Pour reprendre les mots de Monsieur Dagorne, la musique live, c'est unanimement un moment de convivialité et de partage. Nous sommes tous, en tant que spectateurs, dans une même salle ou dans un même festival pour voir le ou les mêmes artistes. De ce fait, et la plupart du temps dans une ambiance bon enfant, on se laisse porter par ce moment et par le mouvement de la foule, au bon sens du terme, évidemment. Pour ma part, ma propre expérience des vieilles charrues m'a fait découvrir cette ambiance si particulière de la musique live. C'est sûr que c'est autre chose que d'écouter seul ou en petit groupe les artistes de nos choix. En un mot, la musique live, c'est donc un instant de partage entre personnes de tous horizons, autour d'un intérêt commun, le concert.
Et c'est ainsi que cette émission se termine, remplie de découvertes, de partage et bien sûr de musique. Nous remercions bien évidemment nos chers intervenants qui ont pu nous faire découvrir les différentes facettes d'un festival, ainsi que leur point de vue sur la musique. Nous remercions aussi Étienne, Lilou et Alexandre qui nous ont fait part de leurs pensées et qui ont su parfaitement partager leurs opinions. On vous donne très vite rendez-vous au Festival du Bout du Monde puisque vous nous retrouverez tous les midis en direct le vendredi, le samedi et le dimanche. Merci également à l'équipe de festival qui nous accueillera en ces lieux. Nous vous souhaitons une très bonne journée ainsi que beaucoup de chance pour ce tant attendu examen qu'est le bac. A très bientôt, petite dédicace personnelle, bisous maman.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.